nzamba
nzambira samirana Fidèles auditeurs et auditrices de la radio Nzamba Agathe Kakawe, nous sommes le lundi 14 juin 2021. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française à la présentation Valérie Mucho. D'abord, les principaux titres de cette édition. L'insécurité fait parler d'elle sur la colline Gahaga en commune Bukeye. C'est dans la province de Muramvya. Une personne a été grièvement blessée dans la nuit de ce dimanche par des hommes armés non encore identifiés. C'est un ouf de soulagement pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Ils ne seront plus soumis à la quarantaine dans l'attente des résultats du test de la Covid-19. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de l'Intérieur. Il existe un fossé entre les annonces du président de la République et leur mise en application, selon la Ligue ITK. La Ligue des droits de l'homme se demande qui gouverne réellement le pays. Les détails, c'est dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Au chapitre de la sécurité, une personne a été tuée et une autre grièvement blessée dans la nuit de ce dimanche sur la colline Gahaga de la commune Bukeye dans la province de Muramvya. Au centre du pays, ce forfait a été commis par un groupe d'hommes armés non encore identifiés. Les détails avec Joséphine Jones Munzimana.
C'était vers 20h quand deux filles d'une même famille, Aline Kwizera et Nzeimana Marie Goretti, sont tombées dans une embuscade tendue par des hommes armés non encore connus. Ces deux filles sœurs rentraient du marché du chef-lieu de la commune de Bukeye. Après avoir essuyé des tirs de fusil de ces malfaiteurs sur la colline Garaga, quartier Muyang 3, dans cette même commune de Bukeye, les sources sur place nous disent qu'Aline Kwizera a succombé de ses blessures après avoir été évacuée au centre de santé de Giko dans la même commune Bukeye, tandis que sa sœur Marie Goretti Nzeimana, grièvement blessée, a été conduite en mairie de Bujumbura, où elle est en train de recevoir des soins. Les informations en provenance de la famille de ces deux filles nous disent également qu'elles ont été dépouillées de tout ce qu'elles avaient, y compris un montant d'argent inconnu avant d'être fusillées. Nos sources ajoutent que tôt le matin de ce lundi, la police a commencé les enquêtes pour mettre la main sur les malfaiteurs qui ont commis ce forfait.
Les tueries continuent à se faire remarquer au Burundi au moment même où les victimes ne peuvent pas porter plainte parce que la justice est devenue un instrument du pouvoir. Ce sont les propos tenus par Frédéric Bamvuginyumvira qui fut vice-président de la République. Il préside actuellement la coalition des forces de l'opposition CEFOR Arusha. Il a tenu ses propos après cette attaque armée dans la province Morandia qui a coûté la vie à une personne. Frédéric Bamvuginyumvira demande aux autorités burundaises de désarmer la population civile. Écoutons Frédéric Bamvuginyumvira.
Mais pourquoi nous continuons à nous entretuer? Qu'est-ce qui nous a maudit? Ça c'est une malédiction. Un peuple ne peut pas continuer à se massacrer indéfiniment. Il faut arrêter cette hache de guerre. Et nous avons toujours décrié la possession des armes par les personnes qui ne sont pas autorisées à les posséder. Et ces jeunes filles qui viennent d'être tuées, soit c'est quelqu'un de la police ou de l'armée qui a tiré sur ces personnes, ou bien c'est un jeune d'Imbonerakure qui a tiré sur ces gens-là parce qu'il y a eu des exhibitions des armes et nous l'avons toujours décrié. Et aujourd'hui, la situation telle que les Burundais la supportent, la vivent. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées psychologiquement par les misères que nous traversons, que nous connaissons tous les jours. Et si c'est cela, ça devient un problème très très sérieux parce que pour rien tu peux être tué. Je crois que quelque part, on devrait quand même s'asseoir et chercher des solutions qui conviennent à notre société. Sinon, si vous n'avez pas de justice qui fonctionne correctement, si vous avez des éléments qui sèment de l'insécurité dans le pays, et si la population n'a pas quoi manger, ne peut pas répondre à ses besoins fondamentaux, on ne peut pas dire qu'il y a la paix dans le pays. Au Burundi, il n'y a pas de paix. Et que l'autorité ait la paix, et c'est une bonne chose, mais la conclusion ne doit pas être que parce que l'autorité a la paix, tout Burundi a la paix. Ce n'est pas cela. Donc, je crois qu'il faut quand même demander à ce gouvernement s'il est encore possible de le lui demander, parce que visiblement, la situation se complexifie davantage et que par conséquent, il faut que quand même ils parviennent à faire la paix au Burundi. Et ils sont venus en nous trompant qu'ils allaient nous amener la paix, qu'on allait plus loger dans des marais. Mais aujourd'hui, regardez même les enfants qui n'ont pas quoi manger, et même à l'école, qui étudient assis à même le sol. Tout ça sont des questions qui sont posées. On a besoin de la paix.
Et cette nouvelle brève, toujours concernant la sécurité, 37 personnes ont été arrêtées ce dimanche lors d'une fouille perquisition qui a été menée conjointement par la police et l'armée burundaise. Cela s'est passé sur la colline Kabumba, zone Ruyaga, en commune Kanyosha, c'est dans la province de Bujumbura. Parmi les personnes qui ont été arrêtées, 35 n'avaient pas des cahiers de ménage. Deux autres personnes ont été appréhendées en possession du chanvre. Ils ont été conduits au chef-lieu de la commune Kanyosha, selon des sources administratives. Qui gouverne réellement le Burundi? C'est la question que se pose en chair Nicolas Guizé, le président de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, et se base sur les beaux discours tenus par le président burundais, mais qui sont rarement suivis par des actes concrets. Le plus récent est celui tenu à Mitakataka, en province Bubanza, le 11 juin dernier. C'était à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année académique à l'Institut supérieur de police. Le président Evariste Ndayishimiye a promis de sévir contre les policiers qui vont à l'encontre des règles de leur métier. Le président de l'EGTK, Anshan Nikoyagize, doute de la mise en application de ses propos. Diane Murunziza.
D'un ton sec, Évariste Ndayishimiye appelle les forces de l'ordre à ne pas ternir l'image de son gouvernement à travers de mauvais agissements. Le numéro 1 burundais les a appelés à accomplir correctement leurs tâches pour assurer le bon épanouissement de la population qu'ils sont chargés de protéger.
Faites preuve de professionnalisme dans l'exercice de votre métier pour éviter que personne ne soit victime d'injustice. Je ne voudrais pas qu'à l'avenir, mon régime soit accusé d'avoir couvert des criminels sous prétexte qu'ils sont de la même famille, de la même ethnie ou région. C'est moi qui vous le recommande en tant que commandant suprême parce que c'est ma responsabilité qui pourrait être engagée. La loi sera donc appliquée à l'endroit de quiconque aura failli à sa mission de protéger la population.
L'acte sera-t-il joint à la parole? Les défenseurs des droits de l'homme sont sceptiques. C'est le cas d'Encher Nikoyagize, il est le président de la Ligue ITK.
Qui est le président? Qui commande ces gens qui font des forfaits qui tuent tous les jours? À chaque mois, on observe une vingtaine, une trentaine de personnes tuées, des personnes arrêtées, des personnes torturées. On a toujours la soif de vraiment voir la mise en application de bons discours prononcés par ce président. Puis qu'il est au pouvoir, il y a toujours de bons discours et la mise en application et autres. Le ministre de la Sécurité publique, développement communautaire, s'il dit quelque chose, le lendemain, il est mis en application. Mais pour le président, tout ce qu'il dit, c'est juste pour parler. On se demande si l'administration est sous contrôle.
Dès l'entrée en fonction du président Évariste Ndayishimiye en juin 2020 jusqu'à la fin du mois d'avril de cette année, la Ligue ITK avait relevé dans une déclaration publiée lors de la fête internationale du travail de graves violations des droits de l'homme avec 446 cas de meurtre, 89 cas de torture et 44 personnes disparues. Pour la plupart des cas, les auteurs ne sont pas du tout inquiétés.
Au chapitre des droits de l'homme, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme n'a fait aucune amélioration depuis sa dégradation passant du statut A au statut B, c'était en 2018. Les défenseurs burundais des droits humains s'étonnent après que les membres de cette commission aient adressé une correspondance à la sous-commission d'accréditation pour demander que le statut A lui soit restitué. Maître Vital Nshimilimana, au nom des défenseurs burundais des droits de l'homme, demande aux organisations qui avaient pris cette décision de la maintenir parce que le président de la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi se comporte comme un militant du parti au pouvoir en violation de son engagement à défendre le peuple contre la violation des droits humains.
Aujourd'hui, Nous savons que la CNIDH n'a pas pu continuer l'œuvre déjà entreprise par la première commission dirigée par le père Ntakarutimana. Le père Ntakarutimana et son équipe avaient rehaussé le statut de la CNIDH en quelques années parce que son équipe et lui défendaient convenablement les droits de l'homme. Ils collaboraient avec les organisations de défense des droits de l'homme, vérifiaient les faits et les violations des droits de l'homme qui étaient rapportées. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est le contraire qui prévaut, en ce sens que la CNIDH actuelle se range du côté du gouvernement du Burundi pour justifier les violations des droits de l'homme qui sont commises par les agents de l'État ainsi que les miliciens Imbonerakure. Nous avons vu à plusieurs reprises le président de la CNIDH participer à des activités du parti au pouvoir, ainsi que celles organisées par la milice Imbonerakure. Nous l'avons vu acclamer les miliciens Imbonerakure lorsqu'ils paradaient à l'occasion de la célébration de la journée du combattant. Une attitude déplorable qui ne devrait pas être celle d'un président d'une commission nationale indépendante des droits de l'homme. Il y a d'autres méfaits, d'autres échecs qui caractérisent la CNIDH, notamment la production des rapports biaisés, mais aussi son abstention à intervenir lorsque des victimes lui demandent de les assister ou lui demandent d'assurer une quelconque protection à la hauteur de ses moyens. Si aujourd'hui elle est réunie, le message c'est que nous demandons le maintien de la CNIDH au statut B parce que jusqu'à présent la CNIDH a failli à l'attente qui était celle du comité de devoir se redresser.
Inzamba. Parlons santé à présent. À partir de ce jeudi, les voyageurs en provenance de l'étranger ne seront pas soumis à la quarantaine en attente des résultats du test à la COVID-19. L'annonce a été faite par le docteur Jean-Baptiste Nzoriroga Ngudze, le secrétaire permanent du comité de riposte à la COVID-19. C'était lors d'une réunion d'évaluation de la situation de la pandémie dans le pays, une réunion tenue ce lundi. Écoutons le secrétaire permanent du comité de riposte à la COVID-19, le docteur Jean-Baptiste Nzoriroga Ngudze.
La quarantaine qui était destinée à tous les voyageurs qui entraient au niveau du pays et cette quarantaine qui était obligatoire dans les hôtels qui ont été choisis est maintenant arrêtée. La quarantaine va continuer mais au niveau du lieu choisi par le voyageur. Le voyageur pourra faire la quarantaine soit à son domicile, soit dans un hôtel de son choix. Et les résultats seront disponibles dans les 24 heures. Ceux qui seront testés positifs, une fois que les résultats leur parviennent, ils doivent se diriger directement au lieu qui a été choisi, au lieu qui est appelé bon accueil, pour recevoir les médicaments et aussi d'autres conseils y relatifs. Rappelons que ces mesures concernent les voyageurs qui arrivent pour aujourd'hui et dans les jours à venir, et donc cette mesure n'est pas rétroactive.
Et ce comité de riposte à la COVID-19 a également annoncé l'ouverture des frontières avec la Tanzanie au poste frontière et celui de Kowero dans la province de Muyinga au nord et de Mugina dans la province de Makamba au sud. Au chapitre de l'éducation, c'est la grogne chez les parents des enfants de la direction communale de l'enseignement dans la commune de Nyanzalak de la province de Makamba au sud du pays. Ils dénoncent le comportement de certains directeurs qui font avancer de classe des élèves qui ont échoué dans d'autres écoles. Le cas illustratif est celui de l'ancien directeur de l'école fondamentale Mugerama 1 qui a fait avancer deux élèves qui n'avaient pas réussi dans d'autres établissements scolaires. Il leur avait donné de faux bulletins scolaires. Des détails avec Josine Kadze.
Ces grognes ont commencé après le refus de certains élèves de passer le concours national de la 9e année édition 2021. Le directeur de l'Ecofo Magala, Alexis Nimobona, a admis une fille dans la classe de 9e alors qu'elle avait échoué en 8e année à l'Ecofo Nyanzalak 4. Une autre fille a été interdite de passer le concours national comme venue de cette école Mugerama vers l'école Notre-Dame du Rosaire avec un bulletin réussi octroyé par le même directeur Alexis Nimobona alors qu'elle avait échoué en 8e à l'école Mugerama selon ce parent de l'élève.
Quelques jours avant le concours national, elle a été renvoyée de l'école. J'ai appris qu'elle a utilisé le bulletin de de la 8e réussit pour pouvoir avancer de classe alors qu'elle avait échoué. Elle étudiait avant à l'Ecofo Nyanzala 4. Elle me disait toujours qu'elle avait réussi à cette école. Après, je me suis rendu à l'Ecofo Mugarama 1 et le constat est amer. Ma fille a avancé de classe avec un bulletin frauduleux.
Les parents se demandent comment les enfants sont victimes de cette irresponsabilité de certains directeurs.
Je comprends mal comment l'élève seul soit châtié. Est-ce que le directeur de l'école, après avoir reçu le bulletin de l'élève, ne voyait pas si oui ou non l'élève mérite réellement la classe de 9e année? Alors quel est le tort réservé à ce directeur qui était censé protéger l'enfant?
Les parents demandent aux autorités scolaires hiérarchiques de suivre de près cette question. Nous avons cherché le directeur provincial de l'enseignement à Makamba, Sem Nimhaye, pour de plus amples informations, mais sans succès.
Et selon Eulali Nibidzi, ancienne présidente du syndicat des enseignants du Burundi, STEB en sigle, cette tricherie ne date pas d'aujourd'hui dans cette province de Makamba. Elle s'étonne que cette tricherie soit restée impunie. Eulali Nibidzi interpelle les responsables de l'éducation à prendre en main cette question et à sanctionner sévèrement les responsables au lieu que les sanctions ciblent uniquement les élèves. Écoutez.
Le fait de faire avancer des élèves en trichant sur les bulletins est devenu comme une épidémie en province Makamba. Oui, cela existe aussi dans d'autres provinces, nous le savons, mais en province Makamba, c'est une faute qui n'a jamais été punie. Cela ne suffit pas que des élèves qui ont avancé contrairement aux normes, qui ont volé des bulletins, qui ont volé des résultats, soient renvoyés seulement ou soient remis dans la classe inférieure le jour de l'examen d'État, soit pour l'examen de préparation pour le poste fondamental ou l'examen d'État final. Cela ne suffit pas. Il faut un suivi. Le suivi doit être fait par les élèves. Il doit être fait par les professeurs. Il doit être fait par le ministère. Il faut que les cas d'élèves qui avancent soient considérés officiellement comme des vols de résultats, des vols de bulletins, et que soit sanctionnée d'abord la personne qui a payé l'argent, qui a payé une corruption pour que le bulletin soit acheté, parce que cela ne se fait pas gratuitement. L'élève est sanctionné, d'accord, mais il ne faut pas attendre la fin du cycle pour le sanctionner. Il faut un suivi régulier. Et il ne faut pas alors que ces sanctions-là soient légères. Il faut que ce soit considéré comme des vols. C'est comme quelqu'un volait un examen. Si un élève qui triche en classe, si celui qui vole l'examen est sanctionné de manière sévère, pourquoi ne pas sanctionner de manière sévère la personne qui vole un bulletin, qui vole des résultats?
Les conséquences liées à la démolition des kiosques construits anarchiquement se trouvant dans la ville de Rumonge commencent à se manifester sur les habitants de cette localité du sud du pays. Les usagers de ces kiosques et ceux qui s'en servaient se lamentent beaucoup car ils effectuent désormais de longs trajets pour pouvoir acheter les produits de première nécessité. Le point avec Trifine Kanewabo.
Ces kiosques se trouvant tout autour des routes de la ville de Rumonge ont été tous démolis sous l'ordre de Consolateur Nitunga, gouverneur de cette province il y a 3 semaines. Les usagers de ces kiosques étaient constitués en grande partie, d'une part, par des jeunes chômeurs qui se sont engagés dans le commerce pour parier aux problèmes de chômage. D'autre part, certaines familles de la ville de Rumonge y avaient investi et ces kiosques contribuaient à leur survie quotidienne selon nos sources à Rumonge. Toutes les catégories de la population ne savent pas sur quel pied danser après la démolition de ces kiosques. Ils expliquent qu'ils ont reçu l'ordre d'occuper des maisons se trouvant loin des routes. Cela reste impossible car ces maisons sont chères pour eux. Certains de ces commerçants sont sans emploi tout au long de la journée. Ces kiosques facilitaient les habitants de la ville de Rumonge, surtout pour acheter certains articles utilisés au quotidien. Ils témoignent faire de longs parcours et surtout que le marché central restait unique dans cette ville. Alors que l'administration explique mettre en application la mesure du ministre de l'Intérieur, les habitants de Rumonge dénoncent que des kiosques appartenant aux agents de la police nationale n'ont pas été détruits. Ils demandent au gouvernement de peser sur les conséquences des mesures avant la mise en application et que la mesure ne soit pas sélective au niveau de l'application.
Et avant de clore ce journal, parlons sport. L'Euro 2020 se poursuit ce lundi pour le compte de la 4e journée. Les grandes nations de football ont confirmé leur statut. La Copa América, quant à elle, a débuté ce dimanche au Brésil. Les détails avec Blaise Nijimbere.
Ces rencontres de l'Euro opposent 24 pays. Ils ont débuté le 11 juin et se clôturant le 11 juillet. Ce dimanche, trois matchs étaient au programme. L'Angleterre a battu la Croatie sur un score d'un but à 0. L'Autriche s'est imposée devant la Macédoine du Nord par 3-1. Une première victoire pour ce pays dans la phase finale de l'Euro. Le troisième match a opposé les Pays-Bas à l'Ukraine. Ce sont les Hollandais qui se sont imposés difficilement par 3-2. Pour le moment, 19 buts ont été marqués en 7 matchs joués. Si ce ratio de plus de 2 buts par match continue, il y aura beaucoup de buts dans cet Euro. Romelu Lukaku est actuellement meilleur buteur avec 2 réalisations. Après ces premiers matchs, on constate que les pays avec un passé glorieux dans le football européen n'ont pas raté leur premier match. Il s'agit de la Belgique, l'Italie, l'Hollande et l'Angleterre. Le match le plus attendu de cette 4e journée opposera l'Espagne et la Suède. Il s'agit de 2 pays frappés actuellement par le Covid-19. Pour éviter que cette pandémie perturbe la compétition, certaines mesures ont été prises par l'Union européenne de football association. Au lieu de 23 joueurs, les sélections nationales sont parties à la compétition avec 26 joueurs. Si une équipe frappée par le coronavirus compte 13 joueurs sains, y compris le gardien, le match sera maintenu. En Amérique latine, la Copa América, qui a commencé ce dimanche, oppose 10 pays répartis en 2 groupes. Le Brésil, pays hôte, a facilement gagné son premier match contre le Venezuela sur un score de 3-0. Neymar était titulaire et a marqué son 67e but en sélection sur penalty. Il est à 10 buts du record détenu par le roi Pelé. Le deuxième match de cette première journée a opposé la Colombie à l'Équateur. Les Colombiens se sont imposés par 1-0. Le match phare de la deuxième journée est un choc entre l'Argentine et le Chili. Il est programmé à 23h. La Copa América devrait se jouer en Colombie et en Argentine, mais suite au nombre croissant des cas de Covid-19, les deux pays ont jeté l'éponge et laissé la place au Brésil.
Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir et à la prochaine.